Chapitre 47.
Oh, que c'est gentil à vous!
S'exclama Z, vivante incarnation de la gratitude, quand la femme posa un lourd volume devant lui.
Maintenant, je n'ai plus le moindre doute. Dame Firkin, vous êtes en réalité un esprit du bien venu en ce monde pour m'aider.
Timide comme une jeune fille en fleurs, la femme rougit jusqu'à la racine des cheveux.
C'est mon travail, maître Ribnik.
Z se pencha vers son interlocutrice et murmura enjôleur
« J'aime mieux que les jolies femmes m'appellent Ruben. »
Dès qu'il avait besoin d'un pseudonyme, le vieux sorcier optait pour Ruben Ribnik, un nom qu'il jugeait flamboyant. Quand on menait une vie simple et austère, on avait parfois besoin de la pimenter un peu. La fantaisie pour un homme sérieux comme lui était une nécessité, le seul moyen de préserver l'équilibre. De plus, utiliser ce patronyme le remplissait d'une joie enfantine. La femme parut ne pas comprendre qu'il lui contait subtilement Fleurette. Une réaction étonnante puisqu'elle était assez jolie pour avoir eu une horde de prétendants à ses pieds depuis son adolescence. Soucieux de bien marquer le coup, il précisa sa pensée.
« En conséquence, dame Firkin, j'insiste pour que vous m'appeliez Ruben. »
La belle Andérienne saisit soudain toutes les implications de la dialectique raffinée de l'érudit. Quand elle s'autorisa un charmant rire de gorge, les savants perchés sur d'austères ouvrages, quelques tables plus loin, levèrent les yeux, surpris par cette manifestation incongrue dans un tel temple du savoir. Un des gardes postés à l'entrée, remarqua Z, avait également tourné la tête. Confuse, dame Firkin mit une main devant sa bouche pour cacher son sourire.
« Eh bien, dit-elle, ce sera donc Ruben. »
Elle baissa le ton.
« Et moi, c'est Vedetta. » « Vedetta !» s'extasia Z. « Quel joli nom !»
En gloussant bêtement, Vedetta repartit vers son petit bureau au fond de la grande salle, au premier niveau de l'impressionnante bibliothèque. À travers la fenêtre, face à la table où il était assis, Z avait un moment contemplé le coucher du soleil. Partout, des lampes diffusaient une chaude lumière pour permettre aux intellectuels plus avides de savoir que de bonne chère de continuer à lire. Z ouvrit le volume que Vedetta lui avait apporté. Un simple coup d'œil lui indiqua qu'il ne lui servirait à rien. Il fit cependant mine de s'y plonger avec passion. Le livre qu'il lisait en réalité était posé sur sa droite, un peu plus haut que l'autre. Même la tête baissée, il pouvait tourner assez les yeux pour le consulter sans que personne ne s'en aperçoive. Une précaution au cas où quelqu'un l'aurait épié. Il avait déjà fait sensation dès son entrée dans la bibliothèque en proclamant qu'il venait vérifier une hypothèse révolutionnaire en matière de droit commercial. À l'en croire, la responsabilité des sous-traitants vis-à-vis du client final était annulée par des clauses non écrites dans les contrats, mais implicitement valides en vertu des lois dites d'usage telles qu'appliquées dès les origines du commerce en des temps immémoriaux. Pour le prouver, il entendait découvrir des précédents dans les archives juridiques d'Andérite, dût-il, pour cela, remonter jusqu'à l'aube des temps. Aucun employé de la bibliothèque n'ayant eu envie d'attraper une migraine en tentant de le contredire, on lui avait assuré qu'il pourrait se livrer à toutes les recherches possibles et imaginables. Pour être franc, avoir eu Franca à ses côtés l'avait aidé à obtenir tout ce qu'il voulait. À cette heure tardive, les employés mouraient d'envie de rentrer chez eux, mais ils hésitaient à éveiller le courroux d'un juriste aussi pointu. Le voyant s'incruster, d'autres érudits en avaient profité pour rester plus longtemps. Histoire de travailler ou pour espionner le curieux expert en juridiction commerciale? Assise à côté de Z, mais à bonne distance pour laisser de la place aux livres entassés entre eux, Franca participait aux recherches. De temps en temps, elle montrait au vieil homme un passage qu'elle jugeait pertinent. Très intelligente, elle remarquait des détails qui auraient échappé à la plupart des gens, mais pour l'instant, rien de ce qu'elle avait déniché ne présentait d'intérêt pratique. S'il ignorait toujours ce qu'il cherchait, Z avait au moins la certitude de ne pas l'avoir trouvé. Immergé dans sa concentration, il sursauta quand quelqu'un lui tapota l'épaule.
« Désolé de vous avoir effrayé, » minauda Vedetta. « Il n'y a pas de mal, très cher, mais pourquoi cette si charmante interruption ?»« Eh bien... »
L'Andérienne fouilla dans la poche de sa blouse. Sous le regard brillant du vieux séducteur, elle s'empourpra de nouveau.
« Voilà !»
s'écria-t-elle.
« Je l'ai trouvé !»
Elle se pencha et baissa la voix. Du coin de l'œil, Zed nota que Franca faisait semblant de lire, mais qu'elle ne perdait pas une miette du spectacle.
En principe, nous ne devons le montrer à personne, car il est rare et précieux, mais vous êtes un homme tellement hors du commun.
Vedetta vira à l'écarlate.
Je suis allé le chercher dans les catacombes, exprès pour vous.
Vraiment, c'est très gentil, Vedetta, mais de quoi s'agit-il?
Je n'en sais trop rien. Ce livre appartenait à Joseph Ander en personne.
Voilà qui est inouï.
Oui, la montagne.
Plaît-il?
La montagne, on le surnommait parfois ainsi. Quand je n'ai rien à faire, je lis les anciens textes pour en apprendre plus sur notre vénéré père fondateur. En son temps, on l'appelait la montagne.
Très intéressé, Zed regarda l'Andérienne sortir enfin la main de sa poche. Voyant que l'objet qu'elle en tirait était trop petit pour qu'il s'agisse d'un grimoire, il soupira de déception. Mais son moral remonta en flèche dès que Vedetta lui tendit un petit carnet noir très caractéristique. Un livre de voyage, avec sa plume spéciale glissée dans la tranche. Vedetta ne semblait pas disposée à lâcher le carnet, et encore moins à le lui confier, même si elle tenait Ruben pour un des plus grands érudits de tous les temps. Posté près de la porte, les deux gardes continuaient à surveiller les visiteurs, mais Zed ne s'en inquiéta pas.
« Je peux y jeter un coup d'œil, Vedetta ? »
demanda-t-il.
« Eh bien, je suppose que ça ne risque pas de faire mal. »
L'Andérienne ouvrit délicatement le carnet. Il était en parfait état, ce qui n'avait rien d'étonnant. Celui d'Anna, tout aussi vieux, paraissait aussi avoir été fabriqué la veille. Il en allait presque toujours ainsi avec les artefacts protégés du passage du temps par la magie. Zed plissa soudain le front.
La montagne. C'était clair comme de l'eau de roche. Le jumeau de la montagne était le double de ce livre de voyage.
Ce carnet-là ayant été détruit, les informations vitales qu'il contenait peut-être étaient perdues à jamais. Mais celui de Joseph Ander en gardait sans doute les traces, sauf s'il les avait effacées plus tard. Fasciné, Zed regarda Vedetta tourner la page de garde. Un sorcier mort depuis quelque 3000 ans allait bientôt s'adresser à lui. Il étudia les mots qui figuraient sur la première page et ne parvint pas à les déchiffrer. Un sort de garde sûrement pour décourager les regards indiscrets.
Non, ce n'était pas ça. Et de toute façon, après la défaillance de la magie, un sortilège de ce type n'aurait plus fonctionné. Zed eut une seconde illumination. C'était du haut d'Aran. Une langue que presque personne ne parlait.
Richard prétendait l'avoir apprise et il ne doutait pas un instant de sa parole, mais le sourcier était en chemin pour Aydindril. Et même si Zed avait eu une chance de le retrouver, les employés de la bibliothèque ne le laisseraient jamais emporter le livre de voyage.
« Fascinant !»
souffla le vieil homme pendant que Vedetta tournait les pages devant ses yeux.
« N'est-ce pas? Je vais souvent dans les catacombes pour admirer les textes écrits par Joseph Ander. Parfois, je crois voir ses doigts se poser sur les pages, et ça me donne des frissons.
J'en ai moi-même la chair de poule !»
souffla Zed.
« Hélas, nous n'avons jamais pu traduire ces écrits-là. Personne ne sait de quelle langue il s'agit. Certains de nos érudits pensent qu'il s'agit d'un code spécial réservé aux sorciers. Joseph Ander en était un. Peu de gens le savent, mais c'est la vérité. Un si grand homme. »
Un instant, Zed se demanda comment les Andériens pouvaient évaluer la grandeur de leur père fondateur s'ils ignoraient ce qu'il avait bien pu raconter. Puis il se souvint que les légendes reposaient la plupart du temps sur l'ignorance.
« Un sorcier, » répéta-t-il. « En principe, il aurait dû vouloir qu'on comprenne ses pensées. »
Vedetta eut un rire de gorge.
« Ruben, vous n'y connaissez rien, dirait-on. Ces hommes adorent le mystère. »«
Hélas, vous avez raison, très cher, »
marmonna Zed, les yeux rivés sur les mots qui défilaient devant ses yeux. Aucun ne lui parut familier, même très vaguement. Vedetta regarda autour d'elle, puis baissa encore le ton.
« À part ces deux mots-là, » dit-elle en tapotant une page, « pas loin de la fin du carnet. Par le plus grand des hasards, j'ai réussi à les comprendre. »«
Vraiment ?»« Fuer obens ?»« Vedetta, vous savez ce qu'il signifie ou vous pensez le savoir ?»«
J'en suis sûr. Dans un autre livre intitulé « L'emprise du feu », j'ai trouvé ces deux mots et leur traduction. »
Cet ouvrage parlait de...
Donc, vous êtes sûr de vous ?
Coupa Zed.
Que veulent dire ces mots ?
La fournaise.
Zed leva la tête et regarda l'Andérienne dans les yeux.
La fournaise ?
C'est ça, oui.
Et vous savez à quoi ça fait allusion ?
Vedetta referma le livre de voyage.
Non, je n'en ai pas la moindre idée. Ruben, il se fait tard. Les gardes veulent fermer la bibliothèque. Ils m'ont permis de vous montrer le trésor, mais j'ai promis de les libérer tout de suite après.
Le vieux sorcier ne fit pas l'effort de cacher sa déception.
Je comprends. Tout le monde veut rentrer dîner puis filer au lit.
Vous pouvez revenir demain, Ruben. Je serai ravi de vous aider encore.
Zed entendit à peine ses dernières phrases. Occupé à récapituler les informations qu'il avait glanées, il s'aperçut vite qu'elles ne menaient à rien.
« Pardon ? »
demanda-t-il.
« Qu'avez-vous dit ? » ?»« J'espère que vous reviendrez demain, pour que je puisse vous aider encore. »
Vedetta eut un sourire timide.
« Vous êtes bien plus intéressant que les autres érudits qui n'accordent aucun intérêt aux livres très anciens. Moi, je pense que c'est une honte. De nos jours, plus personne ne respecte le savoir des époques passées. »«
Non, plus personne, »
répéta Zed parfaitement sérieux.
« Revenir demain sera un plaisir pour moi, Vedetta. »
L'Andérienne s'empourpra pour la énième fois.
« Si ça vous tente, vous pourriez venir dîner chez moi ?»«
J'adorerais ça, très cher, et je vous remercie de votre gentillesse. Hélas, ce ne sera pas possible. Je dois rentrer à Fairfield avec Dame Franca pour faire le point sur nos recherches. Mon grand projet, vous savez, la loi que je veux faire promulguer. »
Vedetta se rembrunit.
Eh bien, tant pis. À demain, dans ce cas.
L'Andérienne se détourna, mais Zed la retint par une manche.
Demain, si elle tient toujours, je pourrais peut-être accepter votre invitation.
Vraiment ? Ce serait encore mieux, en fait, car ça me laisserait le temps de... Eh bien, ce serait parfait. Demain, ma fille sera sûrement partie et nous dînerons en tête à tête.
Vedetta joua nerveusement avec le col de sa robe.
Mon mari est mort il y a 6 ans, vous comprenez. Un homme merveilleux.
Je n'en doute pas un instant, à voir la femme qu'il avait choisie.
Zed se leva et s'inclina poliment.
Alors c'est entendu pour demain, et merci de m'avoir montré votre trésor. Ce fut un grand honneur.
Bonne nuit, Ruben,
dit Vedetta en s'éloignant. Dès qu'elle eut disparu, Zed fit signe à Franca de se lever.
On y va.
La magicienne referma tous les livres, puis fit le tour de la table. Acceptant le bras que lui tendait galamment le vieux sorcier, elle se laissa guider jusqu'au grand escalier dont la rampe en chêne polie reflétait la lumière des lampes.
« Des résultats ? »
demanda-t-elle dès qu'ils eurent gravi la moitié des marches. Zed jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour s'assurer qu'aucun des érudits qui s'étaient attardés dans la bibliothèque ne les suivait. Il se méfiait tout particulièrement de 3 individus, mais ils étaient encore en train de ranger leurs documents et leurs livres, trop loin pour pouvoir les entendre, sauf s'ils avaient un quelconque pouvoir. La magie ne fonctionnant plus, ce risque était exclu. Les catastrophes avaient toujours de petits avantages.
« Non, soupira Zed, je n'ai rien trouvé d'utile. »
« Et le petit livre noir que la femme est allée chercher, c'est lui qu'elle refusait de lâcher ?»
« Rien d'exploitable. Il est en haut d'Aran et je suppose que tu ne lis pas cette langue. »«
Hélas, pour tout dire, j'ai dû voir 1 ou 2 fois dans ma vie un texte ainsi rédigé. »«
Védé, Dame Firkin, connaît seulement le sens de 2 mots qui veulent dire « la fournaise ».»
Franca s'arrêta net à quelques marches du palier.
« Vous avez dit « la fournaise »?»«
Tu sais ce que c'est ?»«
Oui. » Il s'agit d'un lieu secret, sauf pour ceux qui ont un pouvoir. Jadis, ma mère m'y emmenait.
Et c'est quel genre d'endroit ?
Une grotte où il fait terriblement chaud. Dedans, on sent la magie et pourtant il n'y a rien.
Je ne saisis pas très bien.
Moi non plus. Il n'y a rien dans cette grotte, mais lorsqu'on a le don, on sent une sorte de... Zed, c'est difficile à décrire. Les gens comme nous ont l'impression qu'un flot de pouvoir se déverse en eux. En revanche, les personnes normales ne remarquent rien.
Franca aussi regarda derrière elle pour s'assurer qu'on ne les épiait pas.
Nous ne parlons jamais de cet endroit, sauf entre magiciens. Puisque nous ignorons ce qui se tapit dedans, nous gardons le secret.
Il faut que je jette un coup d'œil dans cette grotte. C'est possible dès ce soir?
Il faut grimper dans les montagnes, et il y a plusieurs jours de marche. Si vous voulez, nous partirons dès demain matin.
Zed réfléchit quelques instants.
Non, je préfère y aller seul.
Franca sembla blessée, mais, si c'était bien ce qu'il pensait, le vieux sorcier préférait qu'elle reste aussi loin que possible de la fournaise. De plus, il connaissait à peine cette femme. Comment savoir s'il pouvait se fier à elle?
Franca, ça risque d'être dangereux, et s'il t'arrivait malheur, je ne me le pardonnerai jamais. Tu m'as déjà beaucoup aidé, au mépris des risques que ça impliquait.
La magicienne parut un peu moins vexée.
Il faut bien que quelqu'un prévienne Vedetta que vous ne dînerez pas avec elle demain soir. La pauvre sera déçue. En tout cas, je le serai à sa place.